Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu si vous nous rejoignez et il est l'heure du Canu Info pour ce jeudi 30 novembre 2017. Ce soir, nous allons vous parler de plein de choses avec Laurent. Nous parlerons par exemple du Black Friday. En fait, je vais revenir sur cette consommation massive et mondiale. Nous parlerons de racisme et d'homophobie avec Laurent. Nous parlerons aussi du vélo, parce que vous le savez ici, nous aimons le vélo, enfin surtout Laurent d'ailleurs. Moi, je préfère mes baskets. Je vais revenir un petit peu sur la Corée du Nord et son nouveau missile. Nous parlerons un petit peu de diplomatie avec les États-Unis. Et puis, nous parlerons certainement religion aussi avec Laurent et peut-être d'énergie et d'environnement si nous avons le temps. Mais d'abord, c'est Laurent qui va prendre la parole ce soir.
Et oui, j'ouvre avec une petite information relativement brève autour de ce qui s'est passé aujourd'hui, fait par la CGT Énergie et quelques salariés d'Enedis aussi, l'ancienne filiale, la filiale d'EDF là, qui distribue l'électricité. Une grosse opération de coup de poing ce matin, on va dire, puisque à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, des militants ont coupé l'électricité, fait une panne d'électricité géante, une coupure géante. En fait, du coup, des immeubles se sont trouvés sans électricité, notamment des groupes TF1 et Canal+. Donc les militants syndicaux dénoncent les ordonnances réformant le code du travail et les récentes fusions dans le secteur de l'énergie. Il y avait grosso modo au lieu de coupure une centaine de syndicalistes qui étaient rassemblés devant un poste sur lequel ils ont fait la fameuse coupure d'électricité. Voilà, un syndicaliste explique que le lieu a bien évidemment pas été choisi au hasard, que les coupures étaient ciblées, du coup, et ils visaient les médias, notamment TF1 et Canal+, qui n'ont pas été très critiques sur les ordonnances et qui soutiennent la politique libérale du gouvernement. Il y a eu aussi des actions en Gironde, donc du côté de Bordeaux. Là, on a visé, les syndicalistes CGT ont visé le secteur aéronautique avec notamment Héraclès, qui a été un petit peu coupé, et EADS Astrium à Saint-Médard-en-Jalles, qui a été aussi également coupé. Alors là, c'est parce qu'il y a des négociations en cours, notamment sur le site d'Héraclès. Donc voilà, c'était pour de dire que voilà, la lutte continue, les actions syndicales continuent, et c'est un moyen d'action quand on a ce genre de moyen de pression, c'est intéressant de l'utiliser puisque nous n'avons pas toutes et tous, en tant que salariés et syndiqués, des moyens de pression sur le patronat qui en général possède beaucoup plus de moyens de pression sur nous que nous n'en avons sur lui.
Alors, peut-être que vous avez fait partie de ces consommateurs et consommatrices qui ont dépensé leur argent ces derniers jours. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps sur Internet à regarder certains produits, à en chercher d'autres. Alors, on a beaucoup entendu parler du Black Friday en France, puisque à la base, je vous rappelle que ça nous vient des États-Unis d'Amérique. Et puis, depuis quelques années, on a vu apparaître à la fois en boutique et à la fois sur Internet ce Black Friday, c'est-à-dire ces promotions massives... en tout cas qui se veulent massives, sur un petit peu de pour tous les produits. Alors ce qui marche très très fort, hein, c'est évidemment l'électronique, hein, on pense aux smartphones, mais beaucoup aussi le textile, et puis tout ce qui va concerner la maison et le jardinage pour la France. Alors LSA, vous savez, c'est un site qui s'intéresse à la consommation et à l'économie, a fait quelques calculs, et on apprend donc que le nombre de ventes a bondi de 30% cette année par rapport à 2016 en France. Le chiffre d'affaires, lui, a bondi de 33%, bien au-delà de ce qui était attendu, hein, cette année. Alors, on parle de 15 millions de consommateurs sur le territoire français, ce qui est beaucoup, qui ont participé à ce Black Friday, à cette grande journée de promotion. Alors, il paraît que ça marche de mieux en mieux, et qu'évidemment, il faut se souvenir qu'au départ, on avait aussi beaucoup, hein, les boutiques. Et puis, de plus en plus, bah, le consommateur et la consommatrice se tournent vers tout ce qui se passe en ligne, parce que acheter avec un clic, c'est quand même vachement facile et vachement pratique. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit. Alors, en tout cas, le Black Friday est devenu un des jours les plus importants de l'année pour le commerce. Dire que, d'après les estimations, ça va être plus important que les prochains soldes d'hiver en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu comment ça s'est passé. Donc, c'est une ouverture qui s'est déroulée le vendredi, hein, entre minuit et minuit 30, 16% des ventes ont eu lieu. Un truc qu'il y a quand même des gens qui ont attendu minuit une.
Pour acheter des... Bah ouais, parce que tu sais, c'est comme les soldes. Tu fais la queue devant ton magasin parce que le produit que tu veux, il va partir vite. Voilà.
Alors,
je crois que c'est ça le concept des soldes. C'est un truc théorique pour moi, mais...
Je suis pas assez tendance pour participer à ce genre de truc à minuit 2. Alors, il faut savoir qu'en France, ce sont beaucoup les femmes, à 62%, d'après les enquêtes, hein, qui ont été réalisées par LSA, qui participent à cette grande promotion. Alors, j'entends bien que certains et certaines d'entre vous se sont dit, la seule et unique paire de chaussures que je vais acheter cet hiver, je vais en profiter pendant des promotions, pendant des soldes, j'entends bien. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous consomment un peu trop, certainement beaucoup. Par exemple, les 25-34 ans sont les plus dépensiers en France, très largement. Et puis en termes de sites, alors on sait, par exemple, Cdiscount, vous savez, c'est un gros groupe, hein, aujourd'hui en France.
Qui appartient à un casino.
Qui est là depuis très très longtemps, hein, sur le marché en ligne. Le groupe a fait savoir que le site avait enregistré 43 milliards d'euros de volume d'affaires, soit 5 fois plus qu'une journée normale. Et alors, le gros chiffre, c'est évidemment Amazon, partout, hein, pour le Black Friday, on va y revenir plus tard, mais que ça se passe pas que en France. Amazon a fait savoir que son site français, c'était une journée historique. Alors Amazon, il pète tout, hein, de toute manière, dans tous les chiffres. Mais là, il paraît que c'est le jour le plus intense de toute l'histoire du site français d'Amazon. 2 millions d'unités commandées durant la journée. Une augmentation de plus de 40% par rapport à l'année dernière. Non mais c'est des chiffres hallucinants, hein, quand même, dont on parle. Il paraît qu'à un moment, il y avait 1400 unités toutes les minutes, là. Un truc, c'est quand même un peu... moi, je trouve ça assez insupportable, hein, comme chiffre. Alors, sur Amazon, on vend surtout des jeux vidéo, du jouet, de la console, ce genre de trucs. Et puis, évidemment, beaucoup aussi d'intégrales de séries, par exemple. C'est ce qui se vend beaucoup. Mais, évidemment, il faut bien se dire qu'en France, on reste très très loin, évidemment, des États-Unis d'Amérique. Alors, il faut se souvenir qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est Thanksgiving. À la base, c'est une fête.
C'est le lendemain de Thanksgiving.
Oui, mais c'est, voilà, c'est comme une période de fête aussi en famille. Il faut savoir que Thanksgiving, c'est plus important que Noël, hein, dans bien des familles. Ouais. On se réunit.
C'est là où on mange une volaille. Là,
oui, alors on remercie Dieu, tout ça. Enfin bon, aujourd'hui, c'est surtout une période de consommation très forte aux États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que depuis... Alors, beaucoup de sites ont commencé bien avant le Black Friday. Maintenant, c'est à dire que tout le mois de novembre est devenu une période, en fait, de promotion et d'achat assez compulsif, il faut le dire. Donc, depuis le 1er novembre, on a 50 milliards de dollars, hein, qui sont dépensés un petit peu comme ça. Donc, on a Adobe Analytics, hein, qui fait des analyses, qui s'est basé sur 4500 sites internet. Et d'après les statistiques et les analyses qui sont faites par Adobe Analytics, d'ici les fêtes de fin d'année, on devrait atteindre, en fait, 107 milliards de dollars aux États-Unis. C'est des chiffres qui sont absolument énormes parce que c'est en progression. On parle de 1 dollar sur 6 qui est dépensé pour le Black Friday, c'est dans le cadre de promotion aux États-Unis d'Amérique. Mais il y a mieux, il y a le cyber Monday. Et ben ça, c'est encore une journée qui est encore plus éclatante que le Black Friday aux États-Unis.
Donc c'est le lundi d'après.
Eh oui, et Monday, lundi, vous avez tout compris, hein. Friday, c'est vrai qu'on l'avait peut-être pas dit, c'était vendredi. Alors là, on éclate tout, hein, et on parle encore en milliards de dollars. C'est des chiffres absolument incroyables. Alors, Le seul truc intéressant que moi j'ai trouvé, c'est qu'il y a des sondages qui ont été faits auprès des consommateurs aux États-Unis d'Amérique, et il semblerait que les consommateurs et les consommatrices aient plus trop envie d'aller dans les magasins sur des jours qui sont dits comme normalement plutôt fériés. On va appeler ça un peu comme chez nous. Ce qui fait qu'il y a des grosses chaînes comme Home Depot, Costco, qui avaient en fait fermé leur magasin, parce qu'en fait, eh ben, il y a beaucoup d'achats en ligne, et Amazon rafle absolument tout. C'est un géant international, une multinationale qui est en train absolument de tout ravager. C'est un peu une grosse position. Mais alors, beaucoup de sites français se sont beaucoup intéressés à un autre chiffre, 203 000 86 demandes. Et là, c'est quoi la presse française? C'est intéressé à quoi? Eh ben, c'est le nombre de demandes de vérification d'antécédents judiciaires qu'a reçu le FBI pour acheter des flingues aux États-Unis d'Amérique. Bah oui. Parce qu'évidemment, dans ces journées du Cyber Monday et du Black Friday, il y a eu beaucoup de demandes. Parce qu'il y a beaucoup de promotions pour vendre du pétard qui tue des gens. 203 086 demandes, parce que vous savez, donc, le vendeur d'armes à feu va prendre les données du client et va rentrer tout ça dans le National Instance Criminal Background Check System, qui est géré par le FBI. Et paraît que ça a même obligé le FBI à mettre plus d'équipes pour pouvoir faire ces contrôles et pouvoir accélérer les procédures, parce que normalement, ce sont des procédures qui vont très vite, un clim et c'est validé, vous repartez avec votre flingue. Hein, c'est pas très compliqué, on le dit tout le temps aux États-Unis d'Amérique, d'acheter une arme. Il y a très peu de demandes qui sont refusées. On parle de 0,5% des demandes, donc c'est un peu que dalle. C'est voilà, très facile.
La personne qui a déjà tué 12 personnes, s'il demande un flingue, on lui donne pas. Mais pour tous les autres, ça marche.
Alors moi, il faut faire attention, parce que sur certains sites, j'ai lu que près de 200 000 Américains avaient acheté des armes. Non, parce que c'est 203 086 demandes, donc c'est un peu plus compliqué. Et puis on sait pas bien le nombre d'armes en fait qui ont été. J'ai pas réussi à trouver ce chiffre-là mis à jour pour aujourd'hui, d'armes qui avaient été achetées, parce que vous pouvez en acheter évidemment bien plusieurs. Alors ouais. Moi, j'ai trouvé même mieux. C'est le jour des célibataires. Ça se passe où? Ça se passe en Chine, ça s'est passé le 11 novembre dernier. Et il faut savoir que dans la symbolique du nombre en Chine, 11-11, c'est absolument merveilleux. Et donc le jour des célibataires, ça a été lancé par qui? Un grand du commerce aussi, Alibaba, oui. Qui essaye d'être plus fort qu'Amazon.
Mais qui est beaucoup plus fort qu'Amazon aujourd'hui?
Alors ça dépend, mais il y a eu un jour en bourse où Alibaba a crevé le plafond et a dépassé Amazon. L'idée évidemment, hein, c'est de s'installer au niveau international avec cette fête du célibataire le 11 novembre. Les ventes ont explosé et là c'est surtout en ligne. Alors là c'est tout, hein, c'est électroménager, on parle même beaucoup d'achat du lait maternel, du riz, donc beaucoup d'alimentaire en Chine. On parle de vêtements, de meubles, de cosmétiques. Tout ça c'est des promotions qui sont faites auprès des consommateurs et des consommatrices en Chine. Et cette année Alibaba a encore une fois battu son record. On parle de plus de 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ils sont plus le seul, Alibaba, parce qu'ils ont été suivis maintenant par plein d'autres plateformes. Je vous rappelle, Alibaba, c'est une plateforme exactement comme Amazon, mais il y a aussi des ventes directes comme des sites comme Cdiscount par exemple. Et puis vous avez maintenant aussi les boutiques en ligne, les boutiques physiques qui s'y mettent aussi à suivre ce jour des célibataires. C'est absolument phénoménal ce qui se passe sur le marché de la consommation en Chine. Voilà, il y a plus fort en fait que le Black Friday, c'est le jour des célibataires, c'est en Chine. Jack Ma a des prétentions à l'international qui sont absolument importantes, puisque il veut multiplier en fait d'une manière exponentielle le nombre de consommateurs partout.
Alors on poursuit avec, on va parler un peu de racisme et d'homophobie. On va commencer par la région Rhône-Alpes et Monsieur Vauquier, le nouveau chef de la région Rhône-Alpes. Puisque sa clause Molière était devant le tribunal cette semaine. Je vous rappelle que la clause Molière a pour but d'imposer l'usage du français sur les chantiers du bâtiment de la région, soi-disant pour lutter contre le travail détaché. C'est le principe mis en avant par les Républicains et notamment Monsieur Vauquier. C'est un peu le slogan des fachos du Front National, la France aux Français, et là du coup on fait les Lyonnais aux Lyonnais, le travail des Lyonnais pour les Lyonnais, ou alors pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Enfin, c'est voilà un truc très discriminant. Et on se sert d'un prétexte sur la sécurité, parce qu'ils disent qu'il faut que les textes de sécurité soient lisibles par tout le monde, ce qui est évident, hein, que les textes de la sécurité doivent être lisibles et compréhensibles par tout le monde. Bon, s'il y a plusieurs langues, ça coûte pas grand-chose de faire des traductions non plus. Mais c'est sous ce prétexte-là qu'on met en œuvre cette pratique, cette clause qui est très discriminante et qui est donc du racisme, hein, puisque c'est de ça dont il est question. Donc ça passait devant le tribunal administratif de Lyon, c'était mercredi. Recours déposé par la préfecture, l'ancien préfet, celui qui a été viré par Colomb il n'y a pas longtemps. Le rapporteur public, qui représente l'État, a préconisé l'annulation de la délibération de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, en dénonçant, je cite, une intention discriminatoire manifeste, ce que je disais avant, et mettant en doute le motif de la sécurité des travailleurs, donc avancé par le chef Laurent Wauquiez. Le tribunal administratif n'a pas rendu son délibéré, hein, et enfin, sa décision s'est mise en délibéré, comme on dit, et la date n'a pas été fixée. On l'aura, je pense, dans quelques temps. Ce qui est positif, c'est qu'en général, le tribunal administratif suit l'avis du rapporteur, donc il y a des chances que la clause Molière de M. Wauquiez soit rétoquée. Sauf que, bien sûr, il avait annoncé qu'il ferait appel de la décision, donc il fera sûrement appel pour mettre en œuvre sa clause raciste. Bien, c'est de ça dont il est question. Voilà. On rappelle que s'il veut lutter contre le travail détaché, et il y a plein de moyens de lutter contre le travail détaché sans mettre en place des choses qui se rapportent au racisme. Hein, mais ça, bon, c'est un autre débat, et M. Wauquiez, a priori, n'est pas de ce côté-là. On va parler maintenant d'homophobie avec deux petites infos. La première, c'est ce militaire de 37 ans qui s'est donné la mort chez lui, vers Évreux. Alors il a laissé une lettre où il explique les raisons, notamment les faits de harcèlement. Donc c'est la procureure de la République, Dominique Puechmaille, qui explique les choses. Et aussi Sylvain Dumont, c'est l'époux, le mari de ce militaire qui s'est suicidé. Et qui lui a dit, je cite, que son compagnon subissait des insultes à caractère homophobe tous les jours à son travail. Il a d'ailleurs affirmé que son supérieur hiérarchique voulait, je le cite lui, le détruire, faisant allusion à une plainte qu'avait déposée son compagnon pour agression sexuelle en amont du suicide, donc, et accusant son harceleur, c'est-à-dire son supérieur hiérarchique, d'être à l'origine de cette procédure. Alors les enquêteurs ont pour l'instant plutôt attaqué le mari, le veuf, hein, ce qui est bizarre, puisqu'ils sont allés chez lui, ils ont confisqué téléphone portable, deux ordinateurs, des notes manuscrites. Alors c'est bizarre, il vient de se suicider, il y a une plainte déposée pour harcèlement, et qu'est-ce que font les enquêteurs, ça doit être les enquêteurs de l'armée, hein, puisque là on est dans la justice militaire, et ben ils vont dans la famille qui est touché par le deuil. C'est intéressant de voir ça. Alors c'est donc mal parti quand même, même si Sylvain Dumont a dit qu'il irait jusqu'au bout et qu'il ferait tout pour faire tomber les responsables. Alors le colonel de la base 105 d'Évreux, qui s'appelle David Desjardins, a expliqué qu'il n'avait pas connaissance du tout de ces allégations de harcèlement. Bon, ce qui est quand même chelou, louche. Et puis alors le top du top dans les choses qui sont pas très claires, voire bien pire, il a déclaré avoir été informé qu'une plainte avait été déposée contre le sergent, le chef du suicidé, mais qu'il n'en connaissait pas la teneur. C'est-à-dire que lui, il est responsable, colonel, il y a un de ses militaires qui porte plainte contre le sergent pour harcèlement, il reçoit l'avis de la plainte et il va pas voir ce qui se passe. Ouais, c'est quand même. Soit il fait ça, il est incompétent, il est responsable. Soit c'est qu'il savait très bien ce qui se passait et qu'il compatissait, il était d'accord avec le harceleur et l'homophobe. C'est plutôt de ça qui ça laisse entendre, parce que bon ben voilà, si vous êtes responsable et que vous avez un de vos sous-fifs là qui porte plainte contre un autre, en général, ben vous vous renseignez. Hein, c'est la moindre des choses quand on gère des hommes. Puisque c'est de d'hommes dont il est question ici. Donc voilà, un suicide d'un militaire gay. Bon, en même temps, il n'était pas obligé d'être militaire, vous allez me dire, mais bon, c'est pas pour ça qu'il a le droit de subir de l'homophobie. Et on va à Aulnay maintenant. À Aulnay. Une ville intéressante, avec un maire génial qui s'appelle Bruno Béchiza. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais je m'en fous. Donc maire Les Républicains, donc de droite, voire plus, hein, il faut quand même le dire. Les faits se déroulent dans la nuit du 24 au 25 novembre 2016. Alors des opposants à ce maire pas du tout progressiste sont interpellés par la police municipale, donc le bras armé de ce maire, parce qu'il était en train de coller des affiches. Eh ben oui. C'est mal de coller des affiches, surtout des affiches avec la photo du maire et avec un gros panneau qui disait stop à l'homophobie ou des choses comme ça. Ah bon, et donc il n'avait pas apprécié. Donc il avait déposé plainte contre ces 7 colleurs d'affiches qui luttaient contre. Alors ces affiches dénonçaient un arrêté qui interdisait la campagne de prévention du SIDA. Alors je vous rappelle quand même que cette campagne, qui était une campagne déployée par le ministère de la Santé, donc l'État, montrait des couples homosexuels avec des messages du style s'aimer, s'éclater, s'oublier, les situations varient, les modes de protection aussi, et le but était justement de rappeler qu'il faut se protéger quelles que soient les circonstances pour éviter la transmission d'infections sexuellement transmissibles, voire de maladies sexuellement transmissibles, notamment le sida. Et Bruno Béchiza, lui, il n'aimait pas les affiches, il trouvait qu'elles étaient contraires aux bonnes mœurs. Alors, parce qu'on voit des couples homosexuels, c'est contraire aux bonnes mœurs. Et il avait donc interdit la campagne avec un arrêté municipal. Et effectivement, des opposants au maire qui sont membres d'une association qui s'appelle Vivre Mieux Ensemble à Aulnay avaient crié assez logiquement à l'homophobie, hein, puisque effectivement, c'était de ça dont il est question. Il y aurait eu des couples hétéros, parce qu'il n'aurait rien dit du tout, ce maire, c'en est même sûr, puisqu'il s'est jamais plaint d'affiches de femmes dénudées, il a jamais mis d'arrêté contre les pubs de femmes dénudées, des choses comme ça. Donc c'était pas le fait qu'on voit ces couples un peu dénudés qui le gênaient. C'était parce que c'était des couples homosexuels, bien évidemment. Et donc voilà, ils avaient lancé cette campagne d'affichage contre le maire. Et bien la bonne nouvelle, c'est que le maire, donc Bruno Béchiza, a décidé de se désister, d'arrêter les actions en justice. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que les 7 colleurs d'affiches en plus seront plus poursuivis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal administratif vient d'annuler l'arrêté municipal homophobe. Donc effectivement, il s'est dit, oula, si déjà la justice administrative dit que mon arrêté, il est pas bon, je vais passer en justice, je vais avoir l'air ridicule et je vais être hors la loi. Et effectivement, donc du coup, il se retire pour pas avoir l'air ridicule. Donc c'est une bonne nouvelle et c'est une nouvelle qui était assez logique. Par ailleurs, l'association donc Vivre Mieux Ensemble à Aulnay continue son combat, puisque le maire avait aussi engagé des actions en justice contre des blogs de personnes qui habitent Aulnay qui avait donc attaqué, critiqué le maire. Il y a 9 procédures qui sont en cours pour diffamation, donc voilà, la lutte continue contre ce maire ouvertement homophobe quand même avec son campagne contre la prévention du sida. Campagne certes orientée sur les couples homosexuels, puisqu'il y a une progression plus importante que chez les hétéros, a priori, dans les derniers chiffres sur le sida et les infections sexuellement transmissibles, pas que les maladies sexuellement transmissibles. Du coup, la campagne était ciblée et elle avait une logique de santé publique importante.
On va parler pédalier ?
Oui, on va parler vélo.
Ah. Oui.
Donc le vélo, c'est la vie, il faut le savoir. Et je vais revenir sur les chiffres qui ont été donnés par la sécurité routière, et puisqu'ils nous ont sorti un chiffre comme ça il y a quelques jours en disant augmentation du nombre de personnes tuées à vélo entre 2010 et 2016 de 22%. Ah non, juste en 2016, je veux dire, de 22%. On se dit, waouh, 22% de morts en plus à vélo, bon, bah faut arrêter de prendre le vélo, c'est ultra dangereux. Alors en fait, le chiffre tel qu'il est sorti, comme ça, il veut pas dire grand-chose, et voire il est presque faux. Alors par exemple, la sécurité routière a pris ce chiffre sur les 12 derniers mois. Les 12 derniers mois, c'est-à-dire d'août 2016 à juillet 2017. Et d'habitude, ils font ça sur une année, de janvier à décembre. Et si on prend les mêmes chiffres sur l'année 2016, eh ben on passe à 10%, 10,2% de tués supplémentaires. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des mois où on meurt plus à vélo que d'autres. Et donc, si on veut comparer d'une année sur l'autre, il faut prendre les mêmes plages. Hein, sinon c'est faussé. Donc là déjà le chiffre il est faussé. Alors je sais pas dans quel, pourquoi ils ont faussé le chiffre. Ils ont donné une plage différente de d'habitude. S'il y a une volonté ou c'est juste accidentel et qu'ils avaient envie de ressortir les chiffres sur l'accidentologie à vélo. Bon, en tout cas c'est malvenu quoi. Et voire c'est malhonnête quoi. Même si c'est accidentel c'est dommage. Voilà. Alors après, si on regarde plus loin, si on prend les chiffres sur justement entre 2010 et entre 2000 et 2016, donc là sur 16 ans, il y a une baisse de 36% de morts à vélo en France. Donc ça fait pas mal. Et alors si on part encore plus loin jusqu'en 1960, ben grosso modo, ça a baissé jusqu'au début des années 2000 très fortement. Alors le nombre de morts à vélo baisse à peu près comme le nombre de morts en auto. Sur la route, jusqu'au début des années 2000, après ça stagne pour le vélo, ça continue de baisser régulièrement avec des petits aléas pour les accidents de la route avec des véhicules motorisés, que ce soit deux ou quatre roues. Voilà. Donc, voilà. Bon, c'est pas si mauvais que ça. On est sur une stagnation du nombre d'accidentés de morts à vélo. Mais surtout, il y a une stagnation avec un usage qui se développe énormément. Hein, je vous rappelle quelques chiffres. Nantes s'est passé de 2,2 à 6,5% de vélos. Bordeaux de 2 à 11,8%. Et Strasbourg de 10 à 16% de personnes à vélo. Donc en fait, en relativisant comme ça et en replaçant les chiffres en perspective, il n'y a pas de hausse réelle, voire il y a une légère baisse de la mortalité à vélo. Même s'il y a eu quelques mois avec de gros accidents un peu symboliques, notamment des sportifs qui sont morts sur les routes, avec des doutes d'ailleurs sur l'accidentologie ou si c'est la volonté réelle ou si c'est plutôt du meurtre d'ailleurs de la part d'automobilistes. Hein, il y a eu quelques échos comme ça de cyclistes, de coureurs qui sont morts en Europe d'ailleurs. Ça ne concerne pas que la France. Alors, autre chose sur les chiffres, la cause du décès. Alors, il y a et du coup, les chiffres sont, il faut en faire attention. Sur les 147 cas, 118 sont morts percutés par un véhicule motorisé, ce qui rappelle que l'arme qui tue les cyclistes, c'est essentiellement la voiture, le véhicule motorisé, mais essentiellement la voiture. Bon, il y a les camions, mais c'est un peu moins parce qu'il y a moins d'accidents avec des camions. Mais il y a quand même 19 personnes qui sont tuées toutes seules. Il faut quand même rappeler. Alors sur des chutes, voilà, chiffre important. Alors si on regarde, vous me direz bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? On va faire juste deux petits exemples. On va aller voir les Pays-Bas. Donc 4 fois moins peuplé que la France. Il devrait y avoir 4 fois moins d'accidents de la route. Ben, il y en a 5,5 fois moins. C'est-à-dire qu'ils sont plus performants que nous. Alors c'est comme chez nous, ils ont une baisse de la mortalité à partir de la fin des années 60. Mais eux, elle a continué un peu plus que nous. Dans un pays, hein, on rappelle, où les cyclistes représentent jusqu'à 30% des déplacements. Alors ça dépend un peu du type de déplacement. 34% pour les trajets inférieurs à 7,5 km, c'est 2% en France. Donc là, voilà. Alors le ministère des Transports néerlandais explique hein, plus on a de vélos, moins il y a d'accidents. Ça, on le constate tous les jours pour ceux qui font du vélo. Les automobilistes sont obligés de faire attention parce qu'il y en a plus. Et ils sont plus visibles, les cyclistes, qu'on ne l'était autrefois. Il y a beaucoup plus d'aménagements avec des vraies pistes cyclables protégées, contrairement aux villes françaises où il y a très peu de pistes cyclables protégées, essentiellement des bandes cyclables avec le risque classique d'accident, ouverture de portière, des choses comme ça, hein. Acte volontaire hein, de la part des automobilistes d'ouvrir leurs portières. Pourquoi ils regardent pas, est-ce que c'est volontaire ou pas, ça on le saura jamais hein, vraiment. Mais bon voilà, l'accidentologie est aussi à cause de l'absence d'infrastructures sérieuses qu'il y a en France et notamment à Lyon hein, où moi je circule tous les jours. Et puis si on va plus loin, on regarde en Espagne aussi par exemple, 80% des routes ont des bandes cyclables. Alors elles ont pas des pistes mais elles ont quand même des bandes cyclables. Nous, on n'est pas là à 80%. Du coup, les automobilistes semblent respecter beaucoup plus les cyclistes qu'en France. Ouais. Bon, il y a des exemples flagrants. Ils roulent beaucoup plus loin des cyclistes. Hein. La loi, c'est à peu près 1 mètre entre une voiture et un cycliste. L'idéal est 1,50 m. En France, presque personne respecte ces règles de sécurité minimum. Donc voilà, c'était pour rappeler un petit peu les chiffres sur le vélo. Et puis, je vais continuer dans l'actualité du vélo avec le pays qui n'est pas du vélo, contrairement à la Hollande ou aux Pays-Bas. On va parler de l'Iran. Puisque l'ayatollah Ali Khamenei, le chef spirituel de la dictature religieuse qu'est l'Iran, a publié cette fameuse fatwa où il interdit aux femmes de conduire des vélos dans les lieux publics. Elles peuvent le faire dans leur maison, peuvent tourner dans leur appartement avec leur vélo, mais pas dans les lieux publics. Alors ça fait suite à différentes infos des membres des comités des fatwas l'année dernière qui avaient dit que c'était pas normal que les femmes fassent du vélo ou de la moto d'ailleurs, parce que elles attiraient le regard des hommes. C'est évident, hein. Les femmes, grosso modo, en Iran, elles attirent le regard des hommes, et c'est mal, a priori, de ce que j'ai compris de la fatwa de l'ayatollah en Roumanie. On sait qu'il y a eu une course, hein, qui avait été organisée, qui avait été interdite, qui s'appelait la Karlesh Tuesday. Il y a eu plein d'actions symboliques de femmes iraniennes qui se sont filmées et qui sont mises sur des réseaux sociaux en bravant les idées des religieux. Et là, maintenant, en bravant cette fatwa, cet interdit religieux contre elles. Bon, ça nous démontre une fois de plus que le religieux maître du pays, n'aime ni les femmes ni le vélo, hein, ça c'est sûr. En tout cas, pas le vélo pour les femmes, puisque bien évidemment, les hommes, eux, ont le droit de rouler à vélo, ils ont le droit de tout faire. C'est ça qui est sympa quand même, quand on a un homme en Iran. Par contre, pour une femme en Iran, c'est un peu plus compliqué. Et puis je vais revenir sur le fameux serial creveur de pneus de Bordeaux. J'ai eu beaucoup d'espoir sur cet homme qui a crevé quand même des pneus de 6000 voitures. Je me suis dit, c'est un vrai militant anti-voiture, c'est la classe, il a des grosses revendications, il s'est fait arrêter, mais là, on va avoir un procès symbolique en disant, voilà, la voiture, ça tue, la pollution automobile, ça tue 50 000 personnes par an. Eh ben, moi, j'empêche ces gens de tuer en crevant les pneus des voitures. Bon, bah non, je suis tombé de ma chaise, parce qu'en fait, ça semble juste quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, c'est le psy qui le dit, hein, qui l'a interrogé, qui aurait pu d'ailleurs être dangereux, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire d'autres actions. Lui, il dit qu'il a voulu se venger de la société et de mauvais traitements dont il a été victime étant enfant. Bon, bah voilà, j'étais déçu, c'était pas un militant anti-voiture.
Alors vous aurez peut-être remarqué que ce soir dans ce Canu Info, il n'y a pas trop d'ordre hein, dans notre déroulé, c'est un peu comme ça vient et comme on peut. Hein. Nous allons donc parler de la Corée du Nord, parce que Kim Jong-un, il est content.
Ah, il a tiré un gros missile.
Un gros missile, ce qu'on appelle de type intercontinental, il s'appelle le Hwasong-15 en français, et alors celui-ci, il est susceptible d'atteindre toutes les villes aux États-Unis d'Amérique.
C'est-à-dire tout le monde, grosso modo.
Globalement, ça a l'air plutôt vrai, a priori. Hein.
Missile lui-même, en tout cas, presque a été démontré, même s'il a été tiré en cloche très très haut,
oui,
avec un angle très important pour pas survoler le Japon. La distance parcourue équivalente en tir beaucoup plus allongée.
C'est ça, mais il y a moyen.
Tous les pays du monde.
Ouais. Il est content, en tout cas, Kim Jong-un, ça lui permet dans son pays de légitimer encore un peu plus sa politique guerrière. Du côté des États-Unis d'Amérique, eh ben, on paraît quand même un tout petit peu... impuissant, vous pourrez peut-être employer ce terme-là. Je vous rappelle que M. Trump, grand président américain, avait déclaré il n'y a pas si longtemps qu'il allait mettre le feu et la fureur hein, contre la Corée du Nord. On attend le feu et la fureur. Le problème, c'est que M. Trump, c'est un beau parleur, un peu comme M. Kim Jong-un, finalement, qui sortent du gros vocabulaire, hein, qui tapent du poing sur la table, mais qui, au final, ne savent pas trop bien comment avancer. En tout cas, du côté de Trump, on sent qu'il y a quand même un petit peu... et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Monsieur Trump demande des sanctions contre la Corée du Nord, demande à la Chine d'être enfin dans la sanction aux côtés des États-Unis, aux côtés du Japon et de la Corée du Sud. Ça ne marche pas trop. Hein, les États-Unis ont remis la Corée du Nord sur la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Ça a fait rigoler Kim Jong-un, a priori. En tout cas, bon, ça lui fait lui aussi sortir une verbe tout à fait magnifique. Alors, il faut se souvenir que quand même, il y a eu une vingtaine de tirs de missiles nord-coréens depuis le début de l'année. Trois de type intercontinental. Hein, donc, à chaque fois, il y a quand même une réponse un petit peu aux critiques, hein, en particulier des États-Unis d'Amérique et de M. Trump. Alors... On a eu ce débat ensemble. Est-ce que les États-Unis d'Amérique ont les moyens d'intercepter un missile nord-coréen? Oui.
Il y a un missile, oui, c'est sûr. Ça.
Oui, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. D'abord, on pourrait dire au niveau stratégique, très bien. D'abord, pour l'instant, les missiles nord-coréens, ils vont plutôt dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'on va aller intercepter un truc qui tombe dans l'eau. Très bien, mais une fois qu'on l'aura fait pour le premier, qu'est-ce qu'on va faire pour le second? On va y aller à chaque fois. Alors, on va faire quoi? Attendre que, du coup, le missile nord-coréen, il aille frapper
Oui, mais tant qu'il n'est pas en direction des États-Unis ou en direction d'un pays et qu'il n'est pas chargé de bombe nucléaire, parce qu'ils n'ont pas encore franchi le pas, parce que d'abord, on ne sait pas s'ils ont miniaturisé
suffisamment. C'est la grande question que tout le monde se pose.
La difficulté, faire péter une bombe atomique, c'est pas si compliqué que ça.
Mais la grande question, elle est quand même de...
Miniaturiser, c'est plus compliqué.
Que faire à chaque fois, c'est-à-dire on a les grandes paroles de Monsieur Trump, mais quelle peut être la réalité stratégique pour répondre ces attaques? Et puis il y a quand même aussi une réalité technique qui est pas si simple, c'est qu'en fait ils ont fait cet essai de nuit et a priori sur un camion, enfin un truc mobile. Je dis camion parce que c'est un véhicule, mais il faut imaginer quand même le gros bousin. Et pour quand même un certain nombre d'experts, c'est plus compliqué la nuit et c'est plus compliqué quand ça bouge. Parce que ça veut dire que la surveillance n'est pas la même et puis le repérage n'est pas la même. Donc en fait, les États-Unis d'Amérique ont fait des tests dernièrement pour essayer d'intercepter. Enfin, c'est des tests qu'ils font assez fréquemment. Et en fait, il y a une fois, ils se sont plantés. Et donc la grande peur stratégique, ça serait que ils se loupent techniquement et que du coup, la Corée du Nord pourrait se glorifier en disant vous avez raté notre missile.
Ouais. Ça va très vite un missile entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique, c'est relativement loin. Du coup, il y a quand même plusieurs possibilités de frappe. On avait vu les systèmes antimissiles sur des missiles plus courts, en Israël notamment ou dans d'autres systèmes. Et ils sont assez, ils peuvent être assez efficaces.
Parce que tu pars du principe qu'ils vont forcément viser Washington, sauf que les voisins coréens du Sud et les Japonais, eux, sont un petit peu plus embêtés parce qu'ils savent aussi qu'ils pourraient être visés potentiellement. Ce qui n'arrange personne. Je vous rappelle que au Japon, on a un Premier ministre qui a été reconduit, qui est plutôt belliqueux et qui veut casser la constitution pacifique du Japon pour pouvoir être dans l'attaque et non plus regarder les missiles lui passer au-dessus de la tête, parce que ça arrivait quand même, que ça passe au-dessus, ce qui est quand même pas non plus très très drôle. Donc si jamais il y avait un changement de cette constitution, ce que regardent beaucoup de Japonais, là il y a quand même beaucoup de débats, ça serait qu'on aurait un pays qui serait juste à côté et qui pourrait rentrer aussi dans une belligérance, et donc ça compliquerait un petit peu toute cette problématique. Donc il y a eu une nouvelle réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU, une nouvelle réunion d'urgence qui très clairement ne va servir à rien. On appelle à des nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, qui ne serviront encore une fois à rien, puisque toutes les sanctions économiques commencent à être largement bien mises en place, on tape au porte-monnaie, on l'a déjà raconté dans cette émission. Donc à chaque fois on nous apprend qu'il y a une réunion d'urgence, qu'il va falloir y aller, tout ça ne change quand même pas grand-chose. Et ce qui est intéressant peut-être de se rendre compte, c'est que les États-Unis d'Amérique, avec Monsieur Trump, causent beaucoup, 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 et qu'il y a un problème aujourd'hui de diplomatie quand même. Je vous rappelle qu'il y a un secrétaire d'État aux États-Unis d'Amérique qui s'appelle Monsieur Rex Tillerson, dont on a beaucoup parlé, parce que c'est pas trop un diplomate, c'est un ancien patron de ExxonMobil, donc c'est un petit peu curieux. Il faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, il manque tout un tas de diplomates. Alors, ça fait déjà plusieurs mois qu'on discute un petit peu de tout ça, mais le New York Times est revenu vendredi dernier dans un papier sur cette affaire. Alors, pour l'instant, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas de diplomate, et il y a un pays en particulier qui n'a pas son diplomate, c'est la Corée du Sud. Et alors là, on se dit quand même, stratégiquement, dans le cas d'une guéguerre avec la Corée du Nord, quand je parle d'une guéguerre, c'est-à-dire d'un affrontement diplomatique, on se retrouve avec un pays qui n'a pas son diplomate des États-Unis d'Amérique, ce qui est quand même problématique. Mais alors, il n'y en a pas non plus en Arabie Saoudite, quand même un pays qui fait beaucoup causer, il n'y en a pas non plus en Turquie, il n'y en a pas non plus en Jordanie, en Égypte, au Qatar. Le New York Times a fait une petite liste comme ça, et là, ça commence à poser un petit peu des soucis, puisque Rex Tillerson avait annoncé qu'il voulait réduire d'un tiers le budget du ministère des Affaires étrangères. Certes, ok, le problème c'est qu'il a gelé toutes les embauches, dont certains quand même ambassadeurs et diplomates, donc c'est très embêtant. Et puis surtout que il y a un petit peu des analyses qui sont faites en particulier par le New York Times, c'est que on s'est rendu compte qu'il y en a qui ont été poussés dehors, et en particulier les femmes, les Afro-Américains et les Latinos, c'est-à-dire tous ceux qui globalement gênent M. Trump parce qu'il est raciste et que ça plaît pas bien. Alors il faut savoir que du côté des démocrates et même du côté des républicains, on commence un petit peu à monter à l'assaut Monsieur Rex Tillerson pour lui dire, écoutez, ça commence à pas aller. Il y a beaucoup de postes clés qui, à travers le monde, ne sont plus occupés par la diplomatie américaine, celle des États-Unis d'Amérique. Et donc, bah, ça commence un petit peu à poser un problème. Et en particulier en Corée du Sud, où du coup, bah, il y a plus vraiment d'interlocuteurs. Mais enfin, a priori, quand même, les États-Unis d'Amérique ont décidé de faire comme ils voulaient en Corée du Sud et d'installer leur grosse base américaine de militaires et s'en laver les mains du reste.
On va parler un petit peu de religion avec quelques petites infos. La première, c'est une loi en Belgique qui a fait réagir le comité de coordination des organisations juives de Belgique, puisqu'ils ont déposé mardi un recours en annulation contre cette loi devant la Cour constitutionnelle belge. Alors c'est un décret qui vient des Wallons et qui modifie l'abattage rituel, donc religieux en fait, c'est ça, des animaux et qui oblige à étourdir l'animal avant l'abattage rituel, quel que soit l'abattage rituel d'ailleurs. Et donc c'est Johan Benizri, président de ce comité de coordination des organisations juives de Belgique et membre et vice-président du Congrès juif international mondial, qui explique la raison de sa démarche. Je vais citer ses paroles parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Il dit: nous avions prévenu que cette mesure était susceptible de provoquer un contentieux important, puisqu'elle ne respecte ni les principes de neutralité de l'État, de nécessité, d'égalité, de proportionnalité, ni les règles européennes en la matière. Les législations wallonnes et flamandes rendent impossible l'exercice d'une liberté religieuse, l'abattage rituel, et ont pour conséquence de réduire l'offre d'alimentation cachère dans le pays. Il réclame donc un retour à l'annulation de cette loi. Donc, il est en effet insupportable de se voir pointer du doigt alors que nous partageons les mêmes valeurs fondamentales que tous nos citoyens. Cela étant, nous montrerons que le souci du bien-être animal n'est pas incompatible avec l'autorisation d'un abattage rituel, bien qu'encadré. Alors là, il se fout de notre gueule, parce que lui, il dit, il faut tuer les animaux sans les étourdir. Or, toutes les études scientifiques ont montré que quand on tue un animal sans l'étourdir, il souffre. Et l'étourdissement, c'est pour empêcher la souffrance. Donc lui, il dit, oh mais non, on aime les animaux, mais on veut quand même qu'ils souffrent. Bon, voilà. Alors, il y a une association de défense des animaux, Gaïa, qui va intervenir dans la Cour constitutionnelle pour expliquer les choses. Ce qu'elle rappelle de cette association, c'est que la loi n'interdit pas l'abattage rituel. La loi interdit le fait qu'il soit plus du tout anesthésié et rendu inconscient avant l'abattage. Il y a toujours les autres règles de l'abattage. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. C'est un petit recul. C'est un petit peu dommage. Et je vais terminer là-dessus, avant de donner la parole à nos invités. Juste un petit mot sur le pape qui était au Bangladesh aujourd'hui et qui a eu plus de courage qu'hier, mais c'était facile. Il a dénoncé...
Oui, c'est vraiment pas dur d'en avoir plus.
Du coup, il a dit que c'était pas normal que les Rohingyas soient pourchassés, massacrés, etc. C'est au moins 620 000 Rohingyas qui se retrouvent au Bangladesh dans des camps, suite à une belle épuration ethnique engagée par l'armée birmane, sous l'ordre un petit peu des bouddhistes intégriste. Par contre, la veille, il était en Birmanie, puis il a rien dit. Il a vraiment pas de courage. Tout le monde le présente toujours comme un mec super courageux, super ouvert et tout. Et dans les faits, finalement, il est comme les autres. La réelle politique est plus forte que tout. Alors, petit break dans ce Canu Info. Et nous avons deux invités qui sortent, j'imagine, de l'Assemblée Générale qui a eu lieu à l'école Douaneau, juste à côté de Radio Canu. Membres du collectif, ils vont nous expliquer, en fait. Je pense que vous allez vous présenter, puis dire un petit peu ce que vous représentez, qu'est-ce qui se passe et où on en est un petit peu des actions en cours en ce moment.
Alors Raph, si tu veux prendre la parole,
bonsoir.
Donc, vous laissez le présenter rapidement, ouais, et puis comme ça nous expliquer où vous en êtes.
Raphaël. Et je suis avec
Clélie.
Voilà.
Donc le collectif s'appelle
Le Collectif Jamais, Jamais Sans Toi. C'est un collectif qui s'est créé à peu près à la même époque, en 2014, et qui fédère différents comités de soutien aux élèves sans toit. En fait, il est né d'un constat, c'est que dans nos écoles, enfin dans la métropole, il y avait pas mal d'élèves qui dormaient à la rue, et que on avait déjà occupé des écoles pour mettre ces enfants à l'abri, à Vaux-en-Velin, à Gilbert-Dru dans le 7e arrondissement, et que chaque année c'était la même chose, et qu'il fallait qu'on se coordonne pour être plus fort. Et voilà, on a lancé une campagne de mobilisation, c'était à l'occasion du 25e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'enfant. Et nous, ce qu'on revendique, c'est uniquement l'application de la loi, puisque le droit à un hébergement d'urgence, c'est un droit inconditionnel. C'est dans le Code de l'action sociale et des familles. Je connais pas le numéro de l'article, mais voilà. Voilà, c'est une bataille qu'on mène chaque année, parce que il n'y a pas de volonté politique de trouver des solutions vraiment pérennes. C'est-à-dire d'anticiper que chaque année, au moment du lancement du plan froid, il va y avoir encore des élèves à la rue. Alors, en 2014, on en avait comptabilisé 194. Cette année, on était à 223. Ça baisse un peu puisque la mobilisation fait que chaque fois, on accélère la mise en place du plan froid. Donc c'est des prises en charge, c'est l'État qui est en charge de l'hébergement d'urgence, donc c'est l'acteur principal, c'est la préfecture. Cette année c'était 1200 places ouvertes, à peu près comme l'année dernière, sachant qu'il y en a 850, c'est hébergement en hôtel ou en collectif, et 350 c'est pendant l'activation du plan très grand froid, ça c'est en cas de, c'est au thermomètre, en cas de baisse des températures. Voilà, donc l'idée c'est quand même de faire pression sur les autorités compétentes, donc en l'occurrence l'État, pour faire appliquer la loi. Mais alors cette année, ça a été un petit peu compliqué, parce que autant en 2014, on avait pu occuper 6 écoles, autant cette année, il y a eu une forte... Enfin, c'était le cas l'année dernière aussi, hein, une présence policière devant les établissements mobilisés ou qui étaient susceptibles de l'être parce qu'ils sont un petit peu connus. Pour empêcher les occupations d'écoles. Donc voilà, donc on est dans un rapport de force où il y a l'État, puis il y a aussi la ville qui nous empêche d'occuper, puisque c'est la police municipale qui est dépêchée par la mairie de Lyon pour empêcher les occupations. Mais peut-être que...
Oui, parce que on peut dire juste, Laurent, avant de commencer cette émission, tu es passé voir où en était cette occupation et tu as vu la police, juste avant d'arriver. Hein.
Oui, comme d'habitude, devant Douaneau, il y a plein de policiers municipaux.
Et tu m'as dit, ah si, effectivement, il y a toujours bien une occupation. Soit on s'est demandé si c'était pour empêcher de rentrer ou parce qu'il y avait des gens à l'intérieur, parce qu'on sait que justement, dans les deux cas, il peut y avoir une présence policière. Peut-être que tu vous souhaitais nous expliquer un petit peu...
Peut-être que Clélie, comme elle est... Elle est sur Douaneau, enfin du comité Douaneau, elle a peut-être des infos un peu plus précises sur la façon dont se passe l'occupation.
On commence à s'organiser petit à petit, mais c'est vrai que c'est un peu fait de briques et de broc. Beaucoup d'énergie de parents, pardon, et aussi des gens du quartier. Donc, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais c'est vrai que bon, il y a le fait que déjà il y ait la présence policière tous les soirs devant l'école, ça commence à devenir difficile même pour les familles, venir chercher ses enfants, tout ça. Et puis petit à petit, il y a aussi les enfants qui dormaient dehors qui commencent à tomber malades, tout ça. Faut s'organiser pour manger, pour dormir, plus toute la pression que subissent en fait ces familles. Contre un bal sans arrêt d'un endroit à l'autre pour pouvoir les faire dormir.
Parce que là, par exemple, pour la lutte, de comment il faudra s'organiser, de quoi il y a besoin, est-ce que déjà il y a des choses très pratiques, est-ce que par exemple les habitants du quartier, ceux qui, et celles qui nous écoutent, comment les gens peuvent aider, parce que peut-être que certains et certaines n'ont pas osé venir parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce que leurs enfants ne sont pas ici, donc comment les gens peuvent aussi intervenir, hein?
Tout le monde peut intervenir pour nous aider. Alors, notre règle, puisqu'on est quand même des gens sérieux, c'est de pas empêcher la tenue des cours, donc de la classe. Donc, l'espace de l'école est débarrassé le matin et les occupations le soir à partir à la fin de l'étude de la garderie, 17h45. Donc, on a besoin de monde pour les nuits. Parce qu'il y a toujours des citoyens, des parents, des habitants qui sont là pour des enseignants pour dormir avec les familles. D'autant qu'en plus il y a quand même une pression policière un petit peu permanente. Donc c'est quand même voilà. Donc si si vous souhaitez filer un coup de main, vous pouvez passer à l'école Doineau.
Ouais, faut pas hésiter.
Voilà.
C'est rue Sergent Blandan.
C'est rue Sergent Blandan, donc c'est, c'est à côté des studios de Radio Canu.
Et alors, du coup, c'est la première année où le maire change. Alors,
oui, j'allais demander ça, ouais.
Parce qu'on se rappelle de Gérard Collomb, hein, qui aime bien les enfants à la rue. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'il a laissé ces dernières années. Comment ça se passe avec M. Kepenekian, qui a donc pris le relais? Est-ce qu'il a la même attitude un petit peu négative en laissant... enfin, voilà, je sais pas comment tu ressens les choses, toi, Raph, qui a bien connu Gérard.
Bah, Gérard Collomb, pour lui, le problème n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'en parlait pas, il ne nous recevait pas, il ne répondait pas à nos courriers. Là, il y a quand même, bon, Kepenekian parle, donc c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a, il y a la présence policière. Après, on espère enfin, on va voir les prochains jours si les familles sont hébergées ou pas. Si voilà, on sait que, enfin, je sais pas comment dire ça, mais.
Ouais. Alors là, du coup, il y a combien de familles qui sont, par exemple, dans l'école, qui cherchent un hébergement?
Alors, on a un troisième invité autour de ce micro.
Qui peut parler,
oui.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis parent d'élève à Victor Hugo. Je fais encore partie, bien évidemment, du collectif Jamais sans toi. On avait occupé il y a maintenant de 3 ans Victor Hugo. Et je voulais rebondir sur la présence policière. Il y a 3 ans, j'ai pas un souvenir d'une présence policière aussi impressionnante. Enfin, je crois même d'ailleurs qu'il y avait même pas un policier municipal. Lors des occupations. Bon, alors après, effectivement, hein, il fallait qu'on se mobilise, que les personnes... effectivement, hein, c'est pas simple de dormir tous les soirs, il y a la fatigue, il y a une sorte de ras-le-bol. Bon, c'est pas simple, une occupation d'école. Je tenais aussi à dire que quand on occupe un gymnase, on fait bien évidemment pas par plaisir, mais ça tout le monde le sait. Mais c'est un effort, et puis on le doit. Moi, je pense qu'on le doit aux familles. Voilà. Moi, en plus, je suis d'origine immigrée, et je veux dire, moi, mes parents, je suis même pas sûr que mes parents ils aient dormi un jour à la rue, quoi. Je veux dire, et moi, c'est ce que ça m'a renvoyé, en fait, quand j'ai vu ces familles dormir. Moi, ça m'a renvoyé ça à ma situation. Enfin, ce sont mes parents quand ils sont arrivés en France. Et de se dire, mais attends, tu te rends compte, les Roumains, enfin, je veux dire, ces familles roumaines, elles sont, mais pires que des, elles sont ostracisées, ça on le sait, mais t'as l'impression que même un chat ou un chien, on est touché, on se dit, mais tiens, comment ça se fait qu'ils dort dehors? Et en famille roumaine, on a l'impression qu'ils existent même pas, quoi, en fait. Et moi, c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'avais été moi révolté par cet état de fait. Donc du coup j'ai je suis parti un peu en digression, donc excusez-moi, mais tout ça pour dire que cette année j'ai jamais vu autant de policiers municipaux devant les écoles. Je dis, non mais c'est un truc hallucinant. Et les mecs, enfin je veux dire, c'est pareil, ce week-end on a occupé donc Victor Hugo, on a eu la visite des policiers municipaux, c'est pas une fois, c'est 6-8 dont 2 fois dans la nuit. Enfin, on a l'impression que les gars, ils ont que ça à faire, quoi. Enfin, moi, je suis resté sur la R-train. Enfin, c'est hallucinant cette présence policière. J'ai jamais vu ça. Donc voilà.
C'est-à-dire que la police, on prend à la fois à ceux et celles qui sont là en solidarité, peut-être aussi aux enseignants qui sont là, aux parents d'élèves, et aussi aux familles, ou c'est des attaques plus directes ou quoi?
Non, je pense que c'est une sorte de pression, en fait. C'est une pression, c'est surtout ça. C'est pas du tout. Je pense que c'est les ordres qu'ils ont, c'est d'avoir une. Enfin, d'être présent pour foutre la pression, tout simplement.
Hein, pression, ouais, ils évacueront jamais, parce qu'ils peuvent pas se permettre ça. Hein. En plus, Kepenekian, il a parlé de sanctuaire, donc voilà. D'accord. Par contre, ils font tout pour empêcher les occupations. Alors, en même temps, c'est pas nouveau. Mais en fait, il y a 2 ans, c'était juste après les attentats. Donc le 15 novembre, donc juste après le 13, on avait commencé les occupations de 2 écoles, Gilles Berdru et Michel Servet. Et là, il y a vu, la police était rentrée dans l'établissement scolaire avant la fin des cours. Donc, on avait pu se saisir un peu de ce faux pas. Et les familles avaient été tout de suite hébergées pour la première fois. La ville de Lyon avait payé des nuits d'hôtel le temps que l'État prenne le relais. Donc, il y avait déjà, à l'époque, cette volonté. Ça faisait un an qu'on avait déjà un an d'existence, donc ils connaissaient quand même notre façon de faire, c'est-à-dire les occupations d'école, pour faire la lumière sur ce que vient de décrire Racine, c'est-à-dire des familles qui vivent à la rue, et voilà, pour montrer que ça existe. Et puis, l'année dernière déjà, à la même époque, les écoles qui avaient été occupées les années précédentes, Gilbert Drue, Michel Servet, il y avait la police municipale tous les jours devant l'école. Mais cette année, ils ont mis les gros moyens, d'une part parce qu'on s'est bien plus développé, parce que c'était là, quand on a fait notre campagne de soirée de solidarité le 20 novembre pour la journée des droits de l'enfant, c'était 20 écoles quand même sur la métropole. Il y a 3 ans, c'était 6 écoles. Donc c'est vrai que là, je pense que ça leur met la pression, ils n'ont pas envie que ça se sache, et que là ils se retrouvent un peu dans une situation où la police est là pour intimider, mais ils laissent quand même rentrer. Enfin, c'est ce qu'il faut dire aux gens, hein, c'est qu'il n'y a pas...
Voilà, oui, il ne faut pas que les gens aient peur de venir vous soutenir. Voilà,
c'est vrai que c'est impressionnant.
Mais je pense qu'ils n'ont pas envie d'être là non plus.
Ils n'ont pas envie d'être là, c'est sûr. Je t'en prie.
Je rejoins entièrement ce que dit Raph, parce que moi, le soir où justement, il y avait un soir où Douaneau était occupé, et du coup, voilà, il y avait un petit peu de monde, hein, parce que c'était compliqué. Et effectivement, moi, comme c'est la première fois que je voyais les policiers municipaux, puis en plus maintenant, c'est des vrais Robocop, quoi, et puis ils sont armés en plus. Devant l'école, tu te dis, attends, on peut rentrer, on peut pas rentrer. Moi, franchement, on n'avait pas encore occupé, à ma connaissance, Victor Hugo. Et très franchement, ça peut refroidir, moi, je pense, nombre de personnes. Ah, tu te dis, en fait, il y a un police municipal, on ne peut pas rentrer. Et effectivement, c'est une vraie opération d'intimidation, quoi.
Et alors, très pratiquement, vous pensez que quand même ces familles vont arriver à avoir un logement? Parce que nous, on en a discuté un peu avec Laurent et on se demandait si l'idée des autorités, c'était pas de laisser crever le mouvement, si vous me permettez cette expression, et de jamais reloger ces familles.
Si, mais en fait, c'est pour ça qu'on s'est coordonnés. Parce qu'on constatait que les écoles qu'occupaient toutes seules, ça pouvait durer des mois. À Gilbert Drue, je crois que ça avait été 4 mois. L'année dernière, à Grand Clément, à Vaux-en-Velin, pareil. Donc c'est l'idée, c'est de frapper fort à un moment où c'est un peu le marronnier, à un moment de l'ouverture du plan froid, les médias, ils en parlent. Voilà. Mais quand même, on arrive à chaque fois à reloger faire héberger le maximum de nos familles. Voilà. En tout cas, on fait pression pour accélérer les choses. L'idéal, ça serait qu'on arrive à ce qu'il y ait une augmentation significative du nombre de places en hébergement d'urgence ouvertes qui fasse que toutes les familles qui sont à la rue le soir, moi, c'est quand même pour ça quand même qu'on se bat. Cette année-là, on a pu avoir, de fait de la mobilisation, le fait qu'il y avait une présence policière, donc je ne sais pas si c'était une bonne stratégie de leur part de mettre la police devant les écoles, c'est que... ça a fait la une de Libé lundi, et que les choses ont un petit peu bougé. Ça leur a mis quand même une pression de malade. France 3 est venue filmer l'occupation et l'Assemblée Générale à Douaneau mardi soir. Le lendemain, Jamais Sans Toi a été convié à un rendez-vous à la préfecture qui était prévu de longue date autour de l'hébergement d'urgence. Donc ça veut dire quand même qu'on... Voilà, on arrive à faire la lumière sur ces situations et puis de placer les autorités face à leurs responsabilités, parce que c'est à elles en fait qu'incombe cette mission. C'est pas seulement aux citoyens et à notre seule générosité. Alors voilà, on mène quand même un combat politique. Pas seulement, enfin, il y a une mise à l'abri, mais ce qu'on voudrait, c'est que politiquement la chose elle change. Enfin, en tout cas.
Parce que c'est un problème beaucoup plus global et finalement c'est une micro-action. qui met ça en lumière.
Oui, parce que le logement, c'est un problème. Même s'il y a beaucoup de locaux vides, après, il faut une certaine volonté de faire de la réquisition, ce qu'ils ne veulent pas faire.
En fait, d'après moi, là où il n'y a pas de volonté politique, c'est qu'ils veulent décourager au maximum ces gens de rester. Et ils pensent que ces gens vont repartir dans leur pays, alors que ce n'est pas le cas.
Oui, ça fait partie des moyens de pression.
Voilà, et donc c'est cette épouvantable langue administrative qu'utilise notamment Gérard Collomb cet été, de point de fixation à Calais, où il coupe l'eau. C'est quand même... C'est extrêmement... Enfin, il faut s'imaginer ce que c'est.
C'est
vraiment violence. Voilà.
Ils avaient déjà fait ça au parc de Chartreux.
Ils avaient fait ça au parc des Chartreux.
Ouais. Ils avaient coupé l'eau.
Et effectivement, c'est les populations roms, enfin, au jardin Chartreux, qui sont concernées.
Alors, il va nous rester une dernière minute si vous avez un truc très important à dire, parce qu'ensuite, on va laisser la place à la petite cuillère. Donc, un dernier mot peut-être.
Eh ben, demain, venir filer un coup de main à Douaneau, après, aux environs de 18h. Et puis, samedi,
À 15h.
Il y a la manif, parce qu'on n'a pas parlé des mineurs isolés qui sont, pour l'instant, hébergés par la fac avec. L'accord de la présidence.
Oui, 15h, voilà. Place des Terreaux, samedi 2 décembre. Rendez-vous pour une manifestation.
Donc, nous, on sera présents.
Pour la libre circulation, l'installation de tous et de toutes. Une aide et un soutien aux migrants et à tous ceux qui sont installés ici et qui vivent des discriminations.
Alors, on vous tiendra au courant de ce qui continuera de se passer avec Jamais sans toi. Merci d'être venu et on laisse la place à la petite cuillère.
Merci à vous.
Ciao.
Merci à vous.
Bye.